faire la guerre dans et contre la population colonisée, prétendument pour en finir avec avec une subversion manipulée depuis l'extérieur. Là, l'extérieur, c'est l'Union soviétique, c'est le monde communiste. Et en réalité, pour terroriser l'ensemble des classes colonisées, pour écraser le mouvement indépendantiste, le mouvement de libération. Et c'est une doctrine pour le modèle français qui a la particularité de proposer une militarisation complète de la société. Du coup, c'est une doctrine qui plaît beaucoup à toute une frange des militaires, de l'industrie militaro-sécuritaire, et puis de l'extrême droite, mais pas seulement, aussi de toute une série de fractions au pouvoir. Et du coup, en 1960, on a un moment où le FLN et l'ALN ont été massacrés à travers cette doctrine-là, par une militarisation complète de la répression en Algérie, et où du coup l'armée française prétend qu'avec cette doctrine-là, elle a réussi à en finir avec une résistance populaire, avec un ennemi intérieur, c'est comme ça qu'elle le traite. Et ça va être un petit peu la vitrine de ce mythe de l'excellence française en maintien de l'ordre, qui jusqu'aujourd'hui permet aux industries militaires et sécuritaires françaises de se positionner en première ligne dans les grands marchés mondiaux de l'armement et des dispositifs militaro-policiers. Et donc voilà d'une partie. Oui, vas-y, je t'en prie.
Oui, non, mais donc voilà, donc on arrive à ce moment-là avec cette image qui veut être donnée de la rébellion matée, et en fait arrive ce mois de décembre où on se rend compte que pas du tout.
Enfin, ou en tout cas, personne n'attend l'insurrection générale que vont être les journées, les semaines de décembre 60. Il y a d'autres coordonnées qu'il faut peut-être prendre en compte, justement, c'est que du coup, du point de vue du pouvoir et du point de vue du colonialisme, il y a deux stratégies différentes. Il y a à la fois le bloc de pouvoir gaulliste, donc De Gaulle a été mis au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire qui fonde la Ve République. Ça doit pas être très connu en Belgique, mais l'histoire qui est enseignée dans l'éducation nationale française fait aussi l'impasse dessus. Hein. C'est un coup d'État militaire qui fonde la Ve République et la 5e constitution de la République française, et qui met un militaire au pouvoir, De Gaulle. Donc De Gaulle, le gaullisme à ce moment-là, est le porteur d'un projet néocolonial, et donc est porté par une partie de la bourgeoisie coloniale et des classes dominantes françaises, de la bourgeoisie française, et qui consiste à dire que le maintien de l'ordre colonial coûtant trop cher, étant quasiment impossible à faire puisque les peuples se révoltent de partout, qu'il faudrait en passer à un modèle néocolonial, c'est-à-dire mettre en place une administration gérée par des colonisés, gérée par des Algériens indépendants, mais qui sous-traiteraient les intérêts économiques, diplomatiques, tous les intérêts du capitalisme français, de la bourgeoisie française. Donc ça, c'est le projet néocolonial, c'est celui qui est porté par De Gaulle, et De Gaulle vient du 9 au 16 décembre 1960 promouvoir ce projet-là en Algérie. Et de l'autre côté, on a l'extrême droite coloniale, qui est très bien implantée parmi les Européens en Algérie, et qui s'est organisée à travers une structure qui s'appelle le FAF, le Front de l'Algérie française, et qui cherche à obliger le pouvoir politique à militariser l'ensemble de la situation dans les villes, à faire intervenir les régiments. Les régiments qui sont acquis à l'extrême droite coloniale, et du coup le projet est de s'emparer du pouvoir en Algérie une deuxième fois, comme ça avait été fait en mai 58, mais cette fois-ci pour faire tomber De Gaulle et pour mettre en place ce que eux appellent l'Algérie française, et qui à cette époque-là, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça ressemble à quelque chose comme un projet d'apartheid. Donc voilà, on a du côté français, des classes dominantes françaises, il y a ces deux projets-là qui s'affrontent, et du coup en décembre 60, il y a des journalistes du monde entier, et puis même les peuples du monde savent qu'il va se passer quelque chose en Algérie, mais c'est plutôt on attend l'extrême droite et on attend un conflit entre l'extrême droite et le pouvoir et le projet néocolonial et le pouvoir gaulliste, et personne attend ce qui va se passer, c'est-à-dire une sortie en masse des classes populaires algériennes, et puis une sortie en masse qui se maintient dans les rues. On va en parler un petit peu, en tout cas, bon, voilà, un soulèvement, une révolte généralisée des opprimés, et qui vient bouleverser complètement la situation coloniale et même l'histoire de l'impérialisme français.
Donc, à l'occasion de cette visite du général de Gaulle, il y a à la fois l'extrême droite qui prépare son coup d'État, et ce coup d'État va être déjoué, ou en tout cas va passer en second plan, parce que c'est non plus, enfin, j'ai pas l'impression qu'on en ait parlé dans notre cours d'histoire, quoi. Et donc coup d'État et en même temps population algérienne qui se soulève.
Exactement, voilà. Et après, on peut se raconter un peu plus comment ça démarre, hein, mais c'était un peu ça la question aussi, c'est que par exemple en Algérie, les anciennes gardaient en mémoire ce soulèvement. On parle du Hadash décembre, du 11 décembre, mais en général, justement, on parle d'une journée, le 11 décembre, plutôt à Alger. Les anciens savent que ça avait bougé beaucoup à Oran aussi, mais bon, voilà. Et à partir du début du nouveau soulèvement depuis 2019 du Hirak en Algérie, une nouvelle mémoire a commencé à se reconstituer, à se tisser à propos de décembre 60, qui est transmise par les anciens et les anciennes aux nouvelles générations et parce qu'elle faisait sens dans ce nouveau soulèvement. Mais du coup, l'enquête, les premières choses qu'elle a commencé par découvrir, c'est que cette rupture, cette insurrection, elle n'avait pas eu lieu juste à Alger le 11 décembre, mais qu'en fait, elle commence le 9 et le 10 à Aïn Témouchent et à Oran. Le 10 à Alger aussi, hein, avant le 11 décembre, et surtout qu'elle se répand, enfin, c'est même pas qu'elle se répand, c'est que ça explose simultanément dans la plupart des grandes villes d'Algérie, dans un grand nombre de villes moyennes, et même dans pas mal de villages, et du coup vraiment à travers tout le pays, j'ai reconstitué une carte des soulèvements qui montre quatre vagues successives, et on voit toute l'Algérie parsemé de points qui représentent les soulèvements. On la trouve sur le site, d'ailleurs, si les gens veulent suivre, c'est sur unseulhéroslepeuple.org, il n'y a pas d'accent aigu sur le E. Et du coup, on retrouve aussi les archives, des sources comme ça pour pouvoir continuer l'enquête. Et du coup, cette carte, elle nous montre bien que c'est à travers tout le pays. Et aussi, on se rend compte que c'est pas une journée ni quelques journées, mais ça dure quasiment trois semaines. Ça va jusqu'à l'insurrection le soulèvement de Tiaret, le 6 janvier 61. Voilà.
Et donc pendant ces journées, concrètement, les soulèvements, c'est des manifestations,
Enfin, c'est pas des manifestations comme aujourd'hui, même s'il y a eu des moments pendant les gilets jaunes où ça pouvait peut-être ressembler. Mais déjà, il faut se dire que, par exemple, pour les Algériens et les Algériennes, manifester dans la rue à cette époque-là, c'est prendre le risque de se faire tuer instantanément. Par exemple, dans la plupart des grandes villes, il y a des quartiers qui sont pas officiellement, mais qui sont par la pratique interdits aux colonisés. Ou à part quelques cadres musulmans de l'appareil d'État, mais ou en tout cas si les Algériens et les Algériennes rentrent dans certains quartiers, ils se font tabasser, voire mettre à mort par des colons. Et donc des parties entières des villes d'Algérie sont déjà sous une forme d'apartheid d'une certaine manière. Et puis pareil, on a vu en mai 45, par exemple, quand un adolescent brandit un drapeau algérien dans les manifestations qui vont donner les événements qui vont déclencher les événements de Sétif et Guelma. Du coup, on a un moment où l'Europe se libère du nazisme et où les colonisés qui avaient été embarqués dans cette affaire-là avec la promesse de leur libération à la fin du nazisme disent bah écoutez oui voilà c'est on est content que ce soit la fin du nazisme mais du coup peut-être qu'on pourrait aussi envisager l'indépendance de l'Algérie. Et du coup bah un adolescent par exemple sort dans les manifestations du 8 mai 45 avec un drapeau algérien, il se fait abattre instantanément. Et tous les Algériens et les Algériennes de l'époque savent que sortir avec un drapeau algérien dans la rue, c'est prendre ce risque-là. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc les Algériens et les Algériennes vont sortir dans la rue, donc se mettre en danger de mort collectivement. Ils vont sortir pas avec un drapeau, mais avec des dizaines, voire des centaines de drapeaux selon les villes. C'est toutes les strates du prolétariat colonisé qui sortent, c'est-à-dire bon, pas justement les hommes en âge de se battre, mais des adolescents, les femmes de toutes les générations, des prisonniers à peine libérés, des anciens maquisards blessés, enfin voilà, toute une série de sujets de cette histoire de la révolution algérienne qui en général sont un petit peu marginalisés dans les mémoires. On parle surtout des félagas, des porteurs d'armes, des maquisards, et puis des directions politiques et militaires. Et là, on voit vraiment l'ensemble des exploités, des opprimés, des colonisés, trouver les moyens de se réunir pour sortir ensemble et face au danger d'une mise à mort, se maintenir dans les quartiers, d'abord dans leur propre quartier, puis dans le reste des quartiers qui leur étaient interdits, faire face à la police, faire face aux colons ultra qui leur tirent dessus, qui sont armés, qui leur tirent dessus, qui leur jettent des choses depuis les immeubles, et puis ils réussissent à déborder tout ça et donc. Finalement, ils sont confrontés à l'armée aussi. L'armée est autorisée à tirer. Elle ouvre le feu dans plusieurs villes, à Oran et à Alger, par exemple. Il y a des descriptions horribles de répression militarisée, avec des cadavres dans les rues, etc. Et les Algériens et les Algériennes se maintiennent pourtant. Ils font face à l'armée. Et on a même dans pas mal de situations des descriptions de cortèges, et par exemple de cortèges de femmes qui percent des barrages de militaires, qui les débordent. À chaque fois, c'est toujours lié avec des vagues de répression sanguinaire. Mais les colonisés débordent le système de maintien de l'ordre colonial, débordent la doctrine de contre-insurrection. Et se maintiennent pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, maintiennent un contexte de révolte et d'occupation des rues et des quartiers, à un moment où on l'a pas dit depuis le début, mais pendant cette semaine-là, De Gaulle venait pendant cette semaine-là en Algérie, parce que à l'ONU, c'était le moment allait se discuter la question algérienne, la question de l'autodétermination du peuple algérien. Qui n'était pas réglé, c'était pas sûr que ça, c'était pas acquis, c'est-à-dire c'était encore fragile. Et là, avec ce soulèvement général en Algérie, le mythe, la fiction de l'État français qui lui permettait de justifier cette répression militarisée, qui était de dire que le FLN était une structure ultra-minoritaire, qui ne représentait pas du tout les Algériens, qu'elle terrorisait les Algériens, et que finalement il fallait opter pour la paix française. Ce discours est devenu intenable, puisque le monde entier vient de voir les masses algériennes se mettre en danger pour surgir, s'opposer à l'ordre colonial, pas seulement le critiquer, mais le mettre à terre. Et le droit à l'autodétermination va notamment être acquis en partie grâce à ces soulèvements.
Et donc c'est une enquête de 7 ans, et quand on parle d'enquête, ça veut dire que tu as dû faire en fait pas mal de recherches qui t'ont amené sans doute à des conclusions auxquelles tu t'attendais pas. Dans le film... mais on le retrouve aussi dans le bouquin, la puissance en fait du you-you, moi elle m'a vachement j'ai pas le terme, mais voilà, émue aussi en fait dans un sens, parce que d'entendre que c'est en fait, moi je savais même pas que c'était quelque chose qui était réprimé à ce moment-là, et que du coup ces femmes qui sortent dans la rue et qui sortent cette puissance là fait même fuir quasi en fait les militaires à un moment donné, et voilà, je trouve ça assez assez dingue. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais déjà?
Non, je m'y attendais pas de cette manière-là. Après, la dimension des you-you, j'en connaissais une partie parce que, donc moi, une partie de ma famille, c'est des juifs algériens, et du coup, les you-you sont présents. Enfin, on connaît la dimension de cette pratique dans l'histoire des femmes, et puis des femmes colonisées. Enfin, que c'est à la fois une pratique qui peut être de joie, qui peut être de tristesse, mais qu'il y a une dimension de combat dedans. C'est pour ça que ça m'a pas tant étonné, mais j'avais pas du tout prévu ça. Et en fait, ça vient avec toute une multiplicité de pratiques de résistance populaire, pareil, auxquelles je m'attendais pas du tout. Moi, ma question d'entrée sur cette enquête, c'était de voir comment la contre-insurrection, 3 ans après la bataille d'Alger, après la dite bataille d'Alger de 57, comment 3 ans après, finalement, la doctrine de guerre révolutionnaire, contre-révolutionnaire de l'armée française avait été... moi, je croyais avait dysfonctionné face à un soulèvement. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit, à travers les archives, puis surtout à travers les témoignages, en rencontrant les personnes qui avaient participé, qui avaient été témoins, que ça n'avait pas dysfonctionné, ça avait été saboté. et que les classes populaires n'avaient pas juste surgi de manière spontanée comme ça, mais que c'était le fruit d'un long processus d'auto-organisation, de résistance populaire, et dans lesquels il y avait des multiplicités de pratiques profondément politiques, mais qu'on n'avait pas vu parce qu'on ne les considère pas comme politiques habituellement. Et donc là, par exemple, l'utilisation des youyous, les femmes algériennes vont utiliser les youyous à la fois pour galvaniser les cortèges dans la rue, elles pour démontrer leur puissance face à des soldats, mais aussi en fait on se rend compte les youyous permettent de guider des cortèges à travers les villes, et ça c'est des témoins qui racontent ça, que bah, par exemple ils sont dans leur quartier et en écoutant les youyous venir d'un autre quartier, ils savent que tel autre quartier a réussi à sortir, et puis en les entendant se déplacer, savent que tel cortège est en train d'arriver par telle rue, etc. Et donc, en fait, les femmes et à travers la pratique des youyous, qui en font une sorte de pratique martiale, une pratique en termes vraiment de, qui participe de la résistance, en fait, vont participer à guider des cortèges. Comme ça, bon, elles y participent aussi. Elles sont dans la rue, elles sont aux étages, elles sont dans les maisons, et elles sont aussi, bon, pas que elles, hein, bien sûr, j'ai dit les adolescents et aussi des hommes. Participe à toute une série de pratiques collectives de résistance auxquelles on n'a pas donné tellement de place dans nos mémoires de lutte. Et par exemple, on se rend compte des choses que j'avais pas du tout prévues, mais que pendant ces journées où l'armée et la police enferment les manifestants et les Algériens et les Algériennes dans leur quartier, que tant qu'elle le peut, les Algériens et les Algériennes, par exemple, organisent des sortes de cantines populaires, enfin, se débrouillent pour faire à manger pour tout le monde et le distribuer, bien entendu, gratuitement. Donc, on a des espèces de cantines autonomes, comme ça, qui se mettent en place, ou, par exemple, des centres de soins clandestins dans les arrière-cours des maisons, dans des mosquées, dans des caves, où les personnes s'organisent comme elles peuvent, un peu avec des infirmières algériennes, un peu avec des médicaments détournés, avec les réseaux de la résistance qui traversent les hôpitaux, mais aussi des personnes qui racontent qu'elles se sont, au cours de la guerre de libération, elles se sont formées elles-mêmes petit à petit à faire des soins, à faire un garrot, à administrer, à faire une piqûre, etc. Et du coup, on a les premiers hôpitaux, hôpitaux pas hôpitaux, mais centres de soins algériens, par des Algériens pour des Algériens, qui s'auto-organisent dans ce contexte-là. Là, encore une fois, c'est ce que ça montre, parce qu'il y avait un mythe aussi d'un autre côté qui était que ça aurait été organisé par le FLN, tout ça. Et du coup, là, l'enquête montre que pas du tout. Enfin, il y a eu un apport, bien entendu, de tout ce qu'a fait l'organisation du FLN, même si à sa base, en fait, de toute façon, ça a toujours été les classes populaires qu'ont constitué les bases de l'organisation. Mais là, en décembre 60, l'organisation, dans la très grande majorité des grandes villes, est démantelée, et c'est les classes populaires elles-mêmes qui s'auto-organisent. Et qui mettent en place toutes ces formes de résistance qui, en fait, vont avoir même au-delà de la résistance, vont avoir une dimension révolutionnaire, parce qu'en fait, elles viennent défaire les institutions de la société coloniale, elles viennent bouleverser les rapports de force, la situation coloniale elle-même, puisque les colonisés se reprennent en main leur quartier, leur rue, la possibilité de se faire à manger les uns pour les autres et de se le distribuer gratuitement, c'est la question de la propriété, tout ça, de se soigner, de prendre soin les unes des autres. Voilà, ça va même jusqu'à l'organisation des enterrements où les enterrements sont organisés de manière, enfin sont politisés, en fait en allant enterrer les martyrs, des femmes par exemple profitent une fois que le corps est déposé pour sortir des drapeaux qu'elles avaient cachés dans leur soutien-gorge et qu'elles sont mises en danger encore une fois pour ramener des drapeaux dans les enterrements auxquels jusque-là elles étaient en général normalement par la tradition pas conviées. Et donc là, en fait, elles s'imposent dans les enterrements. Donc même sur la question des rapports hommes-femmes, en fait, elles déstabilisent le patriarcat. Elles s'imposent dans les enterrements et elles y imposent une politisation indépendantiste et révolutionnaire. Donc voilà, bon, toutes sortes de choses que, bien entendu, je n'avais absolument pas prévu de rencontrer et qui viennent nous raconter oui, la multiplicité des résistances et puis les apports fondamentaux à la révolution algérienne qu'ont amené toutes les strates de la population colonisée.
Et donc il y a ces témoignages, mais au niveau, peut-être j'y reviendrai un petit peu après, mais au niveau des archives, du coup, ça a dû être assez compliqué d'avoir accès en fait à ces archives. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on...
En fait, non. Alors, c'est qu'il y a différents statuts d'archives. Il y a une partie des archives, notamment de l'armée française et de la colonisation, qui ne sont pas accessibles. Mmh. Donc, il faut lutter pour les faire ouvrir sur la base du fait que ces archives, elles appartiennent au peuple, aux gens. Il y a une partie qui était accessible et qui ne l'est plus. Depuis que Macron est passé par là. Et du coup, pareil, encore, c'est une lutte en cours en ce moment pour réouvrir les accès. C'est le déblocage administratif, on peut en discuter si vous voulez, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il... Bon, bref, voilà. En même temps qu'il a annoncé qu'on allait ouvrir des archives, et bien, en fait, il a rendu, enfin, il pas juste lui, mais le bloc de pouvoir a rendu l'accès à ces archives beaucoup, beaucoup plus compliqué, enfin, quasiment impossible. Et du coup, même aux archives de l'occupation, hein, ça remonte jusqu'aux années 40. Donc voilà, il y a ça, mais il y a une partie des archives qui sont accessibles, et qui sont accessibles pas seulement aux chercheurs, pas seulement aux étudiants en troisième cycle, pas seulement aux docteurs, mais à tout le monde, et que du coup, bon, moi j'en mets un peu en ligne sur le site, mais il y en a plein d'autres auxquels moi j'ai eu accès, alors à différents endroits, mais les gens peuvent y aller, c'est ouvert. Donc il y a le chat, le service historique de l'armée de terre, hein, à Vincennes par exemple, qui lui conserve donc et donne accès à une partie des archives de cette séquence et une partie d'archives super intéressantes sur la guerre d'Algérie. Je dis ça pour dire qu'on peut travailler dessus, mais il faut pas mettre de côté le fait qu'il y a une lutte indispensable à mener pour faire ouvrir toutes les archives et puis surtout pour les rendre accessibles à tout le monde. Parce que par exemple, même une fois qu'elles sont accessibles en France, en fait, il reste avec la politique des frontières, les Algériens et les Algériennes n'y ont quasiment pas accès. Du coup, ça veut dire ça aussi, ça veut dire lutter pour un accès universel aux archives. Donc, ce qui vient bien entendu questionner les frontières en tant que telles.
Voilà,
j'ai travaillé au chat.
Pardon.
Allô ?
Oui, pardon.
et j'ai aussi été voir les archives des ANOM, les archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence. Qui sont là, sont plutôt des archives administratives, et pareil, là ça fait des fonds qui sont accessibles, sur lesquels les gens peuvent aller travailler. Voilà, puis j'ai aussi regardé un peu toute la presse de l'époque, qui est conservée à la BDI, c'est la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, à Nanterre, et où il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour rendre ces documents les plus accessibles possibles. Voilà, ça c'est pour le côté archives, et puis j'ai croisé ça avec des entretiens, du coup avec des personnes que voilà, pendant 7 ans j'ai essayé de retrouver, et en France et en Algérie, qui avaient participé à l'époque, et du coup forcément qui étaient assez jeunes à l'époque, j'ai rencontré entre 8 et 20 ans. Quoi.
Oui, et comment ça s'est passé dans, je sais pas, le choix un peu des personnes, parce que donc aujourd'hui on est en 2021, c'est vrai que du coup les personnes ont vieilli, c'est difficile d'avoir cette mémoire collective qui s'en va en fait progressivement. Et donc on voit aussi dans le film que les personnes étaient plutôt jeunes en fait à ce moment-là, et cette mémoire collective elle est super importante, et elle amène aussi à l'individualité en fait de la personne qui a participé à ces événements. Je dis ça, en fait, je vais recommencer. Moi, je suis d'origine algérienne et dans la famille, en fait, c'est une espèce de gros tabou. C'est pas quelque chose de quoi on parle. Moi, j'avais posé plein de questions et j'ai pas eu forcément de réponse. Et en même temps, je me rendais compte que je savais pas comment poser les questions. Et là, on voit en fait les gens de la famille partir progressivement. J'ai un peu des regrets. Mon grand-oncle faisait partie du FLN et j'aurais adoré en fait l'interviewer et pouvoir avoir en gros sa mémoire. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, j'en ai parlé à mes parents. Je raconte un peu ma vie, là. J'en ai parlé à mes parents. Et en fait, ça a vraiment délié une parole parce que je me rendais compte, oui, en effet, que je ne savais pas comment poser la question. Et le fait de parler de ce mois de décembre 60, ma mère s'est mise à me parler, mais vraiment à me raconter tous ses souvenirs de ce moment-là, et elle avait 9 ans. Et en fait, il y a plein de choses qui sont là, et donc ça libère aussi une parole peut-être dans les familles, et je trouve que c'est un super prétexte, en fait, voilà, pour arriver à amener ça, quoi. Et donc cette mémoire collective,
ouais,
elle est...
C'est super ton témoignage.
Elle est hyper...
Ça pourra aider d'autres gens aussi. C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée, parce que les anciens, ils s'en rappellent aussi comme une victoire. Mmh. Et que... Des fois, c'est difficile de transmettre à ces jeunes, à ces enfants, des choses qui parlent essentiellement de violence, de torture. Enfin, on a envie plutôt de passer, quoi.
Et puis le fait de se dire, mais ma parole n'est pas importante parce que je ne suis qu'un petit être dans tout ce phénomène. Et pourquoi je raconterais mon histoire alors qu'en fait, c'est quelque chose de primordial.
Parce qu'on parlait des formes de résistance. Exactement. Et donc dans ces formes de résistance qui justement, enfin, on peuvent donner cette impression d'être trop petites, pas à mentionner tout ça. Enfin, il y a ce côté des gamines comme ta mère Lydia qui se trouve à
coudre... Comment tu parles de ma mère
qui se trouve à coudre des drapeaux.
Et, oui, elle m'a raconté ça.
Et donc voilà, enfin, ce truc très, enfin, qui se révèle très très important et qu'on découvre là maintenant. Et qui fait porte d'entrée dans un récit, quoi, parce que ça fait partie de ces mille formes de résistance auxquelles qu'on n'imaginait même pas, quoi.
Et puis ma mère, elle était en Kabylie, elle était pas dans les, enfin, elle était à Bidjaya, c'était quand même une grande ville. Et du coup, ça amène aussi un témoignage encore de autre part, quoi.
Oui, complètement. Et oui, dans le film, il n'y a pas de témoignage de gens de Bidjaya, mais bon, j'en ai rencontré quelques-unes. Et du coup, un peu pour te répondre, moi, j'étais à chaque fois qu'on m'a parlé de quelqu'une qui se souvenait de quelque chose, je me suis trop débrouillé pour trouver un billet de train ou organiser un séjour en Algérie pour pouvoir aller discuter et récupérer les témoignages. J'ai pas fait de choix, j'ai pris tous les témoignages que les gens voulaient bien me donner. Mmh. Et c'était, en vrai, c'était pas tellement compliqué. Enfin, en tout cas, la plupart des gens à qui j'ai demandé de témoigner, en fait, en général, je leur expliquais un peu voilà pourquoi je travaillais sur ça. J'assumais j'assumais l'engagement politique qu'il y a derrière, et notamment du côté de la lutte contre le colonialisme. J'assumais une part de tendresse vis-à-vis de la révolution algérienne. Bon, des choses qui font que, en fait, j'étais pas tant posé en sociologue ou journaliste ou je sais pas quoi qu'en espèce de je sais pas comment, ou de camarade ou de cousin éloigné ou quelque chose comme ça, enfin, qui... Mmh. Et où vraiment ça pas, enfin, toutes les personnes à qui j'en ai parlé ont toujours été très demandeuses de témoigner, et en général on leur avait pas proposé, et on s'est raconté, elles m'ont raconté leur vie en plus, parce que du coup sur le site à terme il y aura les entretiens en entier montés, et ces entretiens ils sont venus parler pas juste de décembre 60, mais les personnes qui ont parlé de toute leur socialisation, leur éducation dans le colonialisme, mais aussi à la résistance. Et puis après, elles ont aussi raconté l'histoire de l'Algérie post-indépendance. Et là, dans ces entretiens, il y a des choses fondamentales, parce que il y a des résonances entre les critiques du colonialisme et les critiques des nouvelles formes de pouvoir post-indépendance. Et bon, voilà, ça vient discuter à tous les niveaux, quoi.
Oui, puis c'est pas quelque chose en France qu'on nous apprend à l'école ou des choses comme ça. Et donc c'est difficile quand on est né en France, qu'on a des parents algériens, et qu'en fait on porte de toute façon, qu'on le veuille ou non, ce poids aussi colonial. Et donc de pouvoir avoir à un moment donné plein d'endroits qui libèrent ces paroles, ben je pense que c'est une ouverture à libérer encore d'autres paroles. En fait, il ne faut pas s'arrêter là.
Complètement. Il y a plusieurs expériences là qui se sont lancées, et je pense qu'il faut les accompagner et en faire d'autres, mais de recueil des témoignages des anciens et des anciennes, alors, notamment par rapport à la révolution algérienne, mais en fait, plus largement par rapport aux luttes anticolonialistes, aux luttes des quartiers et des immigrations. Il y a un enjeu fondamental de récolter les mémoires de nos anciens, de nos anciennes, de les archiver et de les mettre à disposition, et puis de le faire nous-mêmes, de ne pas laisser... enfin, que ce soit pas des institutions qui gèrent ça et qui après en gèrent aussi l'accès et puis la manière dont c'est utilisé, etc. Et du coup, il y a quand même plusieurs expériences là de recueil des mémoires en dehors des universités. Après, les universités peuvent faire ça bien aussi, hein, mais je pense que il y a un enjeu fondamental à ce que on s'empare de ça, parce que bah, comme tu le disais, nos anciens, anciennes, et qui ont été les acteurs de tout ça, sont en train de nous quitter petit à petit, et ils sont les gardiens des trésors de mémoire, mais c'est aussi des trésors politiques, parce qu'en fait tout ça c'est encore une fois des outils pour les luttes actuelles.
Mais oui, tout à fait. Fred, t'avais...
Ouais. Ouais. Bah dans ce travail, dans ce recueil historique des événements, enfin des témoignages, et la manière dont ils sont déroulés, je vais dire, dans le livre, j'ai trouvé que vraiment, enfin, ça laissait, enfin, toute la possibilité au lecteur d'en venir par lui-même à noter l'importante présence des enfants et des femmes. Et donc, ouais, il y a vraiment ce travail, ce travail historique, que je vais pas te traiter de neutre, quoi, mais je pense, enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cette possibilité laissée au lecteur de se rendre compte par lui-même des choses et de se trouver après, enfin voilà, enfin dans une partie plus analyse, de se dire mais oui, en fait, enfin voilà, enfin il y avait quand même une présence massive des enfants, adolescents, adolescentes, des femmes. De tous âges, et c'est quelque chose qui est finalement très très marquant dans ces soulèvements.
Complètement. Mais la présence et puis le degré d'organisation aussi, parce que tout à l'heure on a glissé un peu sur comment ça se déclenche, mais du coup ça se déclenche pas à l'appel du FLN, ça se déclenche parce que il y a deux principales étincelles. Il y a le fait que les ultras d'extrême droite, les Européens ultras, ils sont appelés ultras à l'époque, attaquent des Algériens et des Algériennes dans la rue pour créer une situation de tension et déclencher la militarisation dont ils ont besoin pour leur putsch. Et donc là, il y a des... comme à toutes les époques du colonialisme, où les colonisés se laissent jamais faire. Mais là, il y a des réactions collectives d'autodéfense et de contre-attaque, où du coup, des Européens se font... s'enfuient pourchassés par des Algériens et des Algériennes révoltés et vont même retourner se réfugier dans leur quartier, enfin des choses qui n'existent pas quasiment jusque là. L'autre aspect, c'est des groupes d'adolescents, d'adolescentes, en général des lycéens, la toute petite minorité de lycéens et de lycéennes, enfin d'Algériens et d'Algériennes qui a réussi, à qui on a laissé la possibilité d'accéder au lycée, et qui se voient entre elles et eux, par exemple dans des arrière-salles de coiffeurs, où on va se débrouiller pour se voir quelques jours avant l'arrivée de De Gaulle en Algérie, et s'organisent concrètement pour sortir des drapeaux, préparer un mini rassemblement dans lequel seront donnés des slogans, Tahiyat Jazair, etc. Et donc, qui est vraiment l'auto-organisation politique révolutionnaire. Et ces petits groupes, effectivement, mettent en place ce qu'ils ont prévu. Dans certaines villes, ils se font tabasser, en général, ils se font réprimer partout. Mais dans pas mal de villes, ils réussissent déjà à faire leur petit premier rassemblement et à être très rapidement rejoints. Parce que, bien entendu, quand on casse le silence colonial par une rupture de cet ordre-là, sortir des drapeaux, son corps, des lycéens, des lycéennes, et puis les slogans, etc., personne peut être indifférent à ça, et donc là il y a plus de neutralité possible, il y a plus d'attente possible, et du coup ils sont rejoints très rapidement par des hommes qui sortent des cafés, ça dépend des villes, des hommes qui les rejoignent, puis des femmes, etc. Ils vont faire le tour des quartiers colonisés, des quartiers musulmans comme on dit à l'époque, et être rejoints par les classes populaires, et donc ça fait des cortèges qui grossissent et qui deviennent massifs, et qui vont, en devenant massifs, se rendre compte qu'ils ont une puissance gigantesque qui leur permet de percer des barrages policiers, militaires, et puis d'entrer dans les quartiers interdits et de s'y maintenir. Et donc du coup, c'est pas juste une présence, par exemple, des des enfants, plutôt des préadolescents et des adolescents, c'est vraiment ils jouent un rôle complet, fondamental dans cette histoire-là.
On pourrait parler de ça encore, mais pendant des heures en vrai. Déjà, on rappelle qu'il y a donc un bouquin, qu'il y a un site internet et qu'il y a un film. C'est sur un seul héros, lepeuple.org. Le film va être traduit aussi apparemment en plusieurs langues.
Ouais, c'est en cours. Du coup, j'essaie de faire ça un peu. Enfin, de toute façon, on se l'est peut-être pas dit non plus depuis le début, mais donc ça a pris aussi 7 ans, et puis ça avance à ce rythme-là aussi parce que je fais avec les moyens du bord. Moi, je fais de la recherche depuis les luttes, et puis tout en étant précaire, donc ça prend du temps, et on fait avec les moyens qu'on peut. Et donc là, encore une fois, bah pareil, j'avance avec les gens qui veulent bien m'aider. La traduction et le sous-titrage, et du coup, il y a une traduction anglaise qui est déjà prête. Il y a une traduction en darja qui est en train d'être terminée. Là, on positionne les sous-titres. Il y en a une en fosra qui arrive. D'abord, darja arabe populaire algérien et fosra arabe classique. Il y en a une en français pour les personnes non entendantes ou malentendantes. Il y en a une en espagnol qui arrive. Il y a une personne qui a proposé en grec aussi et une autre qui vient de proposer en italien. Et du coup, c'est cool et voilà, ce sera prêt quand on pourra. Mais la version anglaise, elle est déjà disponible. D'ailleurs, et la version française, enfin pas sous-titrée, mais la version française, elle est toujours disponible sur le site. Elle est à prix libre, dont la gratuité. Donc, elle est visible gratuitement pour les gens qui veulent et pour les gens qui peuvent aider le projet. Bah, c'est possible aussi de soutenir. Et voilà. Et du coup, il y a un DVD qui est en préparation aussi, dans lequel il y aura ces versions sous-titrées le plus possible d'ici quelques semaines ou mois. Je ne sais pas exactement.
En parlant de sous-titres, moi j'étais juste ravie de voir un film où des gens ont des accents et on ne les sous-titre pas quand ils parlent en français. Parce que c'est ce qu'on voit un peu trop souvent et c'est un truc que je trouve très violent. Et là c'était juste pas le cas et donc voilà, très bien.
Et ouais, il y a plein d'enjeux comme ça de faire de la recherche et de travailler en indépendance, en autonomie. On fait un peu ce qu'on veut et du coup ça c'est bien. Et parce que par exemple ces trucs-là de sous-titrer, alors que la plupart des gens comprennent, en général c'est ça, c'est des financeurs, qui veulent absolument sûr que de toucher un public le plus large, je sais pas quoi, enfin qui imposent des trucs qui en fait, comme tu dis, au final vont être violents et puis vont desservir. Et voilà, et là l'ensemble de ce projet, il suit un peu un truc qui est un peu que moi j'appelle d'enquête populaire, mais où l'idée c'est de faire de l'enquête depuis les luttes pour les luttes, mais de le faire aussi avec les gens qui se sentent concernés par ces sujets-là. Et pendant cette année de recherche, j'ai tenté comme je pouvais de restituer ce que je trouvais tout au long, c'est-à-dire dans les ateliers, sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter aussi où je fais de la veille sur tout ce que fait, ce que font la police et l'armée française et les industries sécuritaires. Mais du coup, ça me permet aussi justement de montrer les archives, les entretiens, que les gens réagissent. D'avoir des nouvelles hypothèses qui émergent justement en discutant avec une nouvelle personne, un nouveau témoin rencontré, etc. Et donc de faire avancer les hypothèses, les modèles d'analyse collectivement, à la fois avec les personnes qui se sentent concernées, avec les témoins, avec les gens qui ont participé à ces histoires, et puis avec les gens qui sont en lutte aujourd'hui aussi. Voilà, et du coup, oui, ça donne des schémas de recherche qui sont différents que les schémas universitaires, même s'ils sont, comme disait Fred un peu tout à l'heure, je viens de l'université au départ, j'ai décidé de continuer la recherche en dehors, mais j'ai pillé ce qui me semble. Enfin, il y a des choses fondamentales dans les sciences sociales. Je crois qu'il faut s'en servir pour les luttes, quoi. Si on les laisse aux dominants, ils en font des appareils de domination, c'est normal. Et donc voilà, il y a un enjeu à la fois à faire de la recherche rigoureuse, scientifique, mais que moi je crois que ça peut être fait sous forme, de manière collective, par en bas, avec les dominés, avec les opprimés, le faire ensemble, à la fois pour déterminer ce qui s'est passé, l'histoire, etc., mais pour comprendre ce à quoi on est confronté à travers les époques et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avec un parti préassumé de fournir des outils pour nos libérations réciproques.
Ouais, enfin, Je trouve vraiment ouais, qu'il y a vraiment moyen de continuer pendant plusieurs heures et sur plein de sujets, parce que vraiment, enfin, cette activité de chercheur indépendant et comment elle pourrait être plus répandue, parce que enfin, on peut facilement imaginer que c'est une galère à chercher du financement et à payer tout ça, mais quand on entend des témoignages de chercheurs aussi qui se retrouvent à faire de la gestion de projet, à chercher et à passer un temps monstre sur du financement, on n'a pas vraiment l'impression que l'institution aide vraiment là-dedans, quoi. Donc vraiment, enfin, c'est tout un pan de la discussion qui serait super intéressant à avoir aussi. Et justement, je me demandais, enfin voilà, enfin une fois que les conditions le permettront, ou bien sur internet, que sais-je, il y a des moments de projection, de diffusion du film, de rencontres en différents lieux qui sont déjà prévus dans un calendrier aussi incertain qu'il puisse l'être.
Ouais, c'est ça. En fait, il y en a eu plein de prévus qui ont toutes été sautées à cause des confinements et des choses comme ça, quoi. Il y en a quelques-unes qui existent, plus ou moins clandestines, et où, par exemple, en fait, les gens qui veulent en organiser, en général, m'envoient un mail ou sur Twitter un message, et moi, je peux intervenir avec, enfin, tu vois, à la fin de la projection, il y a des gens qui ont fait ça dans leur salon, dans leur quartier, je sais pas où.
On
peut discuter ensemble à la fin par téléphone, par visio, des trucs comme ça. Après, il y a eu quelques petites rencontres en physique aussi, justement dans les interstices entre les confinements et quand c'était possible. Il y a plein de projets avec des cinémas indépendants, avec différentes structures qui attendent juste que de pouvoir réouvrir. Voilà, il y a un gros projet avec mes proches en Algérie, de monter un camion itinérant de diffusion et d'aller diffuser le film directement dans les quartiers et les villages. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma en Algérie. Voilà, il y a un peu toutes ces formes-là. Et du coup, pareil, les gens n'hésitent vraiment pas à me contacter. On trouve sur le site, seulhéroslepeuple.org, on trouve mail, enfin tous les moyens de me contacter. D'organiser ce que les gens ont envie. Il y a des collectifs d'Algériens à Marseille qui se sont fait une projection entre elles et eux, et puis après on s'est fait une discussion. Il y a eu des trucs dans des squats, il y a eu des trucs dans différentes luttes. On peut imaginer ce qu'on veut, quoi.
Bon, on saura quoi faire à Bruxelles, alors, c'est bien. Parfait. Merci Mathieu, en tout cas, d'avoir pris ce temps avec nous.
Merci d'avoir permis de partager ça avec vous.